3-6. Denis Dussoupe. Gaston Dussoupe était un des plus vaillants membres de la gauche. Il était représentant de la Haute-Vienne. Dans les premiers temps de sa présence à l'Assemblée, il portait comme autrefois Théophile Gautier un gilet rouge. Et le frisson que donnait au classique de 1830 le gilet de Gautier, le gilet de Dussoupe le donnait au royaliste de 1851. Monsieur Parisis, évêque de Langres, auquel un chapeau rouge n'eût pas fait peur, était terrifié du gilet rouge de Dussoupe. Une autre cause encore d'horreur pour la droite, c'est que Dussoupe avait, disait-on, passé 3 ans à Belle-Île comme détenu politique, condamnation encourue pour l'affaire de Limoges. Le suffrage universel l'aurait donc pris là pour le mettre à l'Assemblée. Aller de la prison au Sénat, chose certes peu surprenante dans nos temps variables, et qui se complète parfois ainsi, retourner du Sénat à la prison. Mais à la vérité, c'est que la droite se trompait. Le condamné de Limoges était non Gaston Dussoupe, mais Denis, son frère. En somme, Gaston Dussoupe effrayait. Il était spirituel, courageux et doux. Dans l'automne de 1851, j'allais tous les jours dîner à la conciergerie avec mes 2 fils et mes 2 amis en prison. Ces grands cœurs et ces grands esprits, Vaquerie, Meurice, Charles, François-Victor, attiraient leurs pareils. Et il y avait, dans ce demi-jour livide des fenêtres à hôtes et à barreaux de fer, une petite table de famille où venaient s'asseoir dans l'intimité les éloquents orateurs. Et parmi eux Crémieux, et les écrivains puissants et charmants, et parmi eux Péra. Un jour, Michel de Bourges nous amena Gaston Dussoupe. Gaston Dussoupe habitait le faubourg Saint-Germain dans le voisinage de l'Assemblée. Le 2 décembre, nous ne le vîmes pas à nos réunions. Il était malade et avait dû rester couché, cloué, comme il me l'écrivit, par un rhumatisme articulaire. Il avait un frère, plus jeune que lui, que nous venons de nommer Denis Dussoupe. Le matin du 4, ce frère vint le voir. Gaston Dussoupe savait le coup d'État et s'indignait d'être forcé de garder le lit. Il s'écriait « Je suis déshonoré, il y aura des barricades et mon écharpe n'y sera pas. » « Si, dit son frère, elle y sera. Comment cela? Prête-la-moi. Prends-la. » Denis prit l'écharpe de Gaston et s'en alla. On reverra plus tard Denis Dussoupe. 3-7. Renseignements et rencontres. La Mauricière, dans cette même matinée, trouva moyen de me faire parvenir par Madame de Courbonne, note rue d'Anjou Saint-Honoré, 16, le renseignement que voici. Note. L'auteur a conservé cette note écrite de la main de la Mauricière. Fin de note. Fort de Ham, le commandant s'appelle Baudeau. Sa nomination faite par Cavaignac en 1848 a été contresignée par Charras. Tous deux sont aujourd'hui ses prisonniers. Le commissaire de police envoyé par Morny au village de Ham pour surveiller les prisonniers et le geôlier se nomme Dufort de Pouillac. Je pensais, quand la communication me parvint, que le commandant Baudeau, le geôlier, se prêtait à la transmission si rapide de cet avis. Indice d'ébranlement du pouvoir central. La Mauricière, par cette même voie, me fit parvenir quelques détails sur son arrestation et sur celle des généraux, ses camarades. Ces détails complètent ceux que j'ai déjà donnés. L'arrestation des généraux s'exécuta au même moment, dans leurs divers domiciles, avec des circonstances à peu près identiques. Partout les maisons cernées, les portes ouvertes par ruse ou enfoncées de force, les portiers trompés, quelquefois garrottés, des hommes déguisés, des hommes munis de cordes, des hommes armés de haches, la surprise au lit, la violence nocturne. Quelque chose qui ressemblait, comme je l'ai dit, à une invasion de chauffeurs. Le général Lamoricière a, selon sa propre expression, le sommeil dur. Quel que fût le tapage fait à sa porte, il ne s'éveillait pas. Son domestique, ancien soldat dévoué, parla haut et cria pour réveiller le général. Il engagea même une lutte avec les sergents de ville. Un agent de police lui porta un coup d'épée qui lui traversa le genou. Note. il a fallu plus tard, la plaie ayant empiré, couper la jambe du blessé. Fin de note. Le général fut réveillé, saisi et emmené. En passant sur le quai Malaquais, la Mauricière aperçut des troupes qui défilaient le sac au dos. Il se pencha vivement à la portière de la voiture. Le commissaire de police qui l'accompagnait pensa qu'il allait haranguer les soldats. Cet homme saisit le général par le bras et lui dit « Général, si vous dites un mot, je vous mets ceci. » Et de l'autre main, il montra au général dans l'obscurité quelque chose qui était un bâillon. Tous les généraux arrêtés furent conduits à Mazas. Là, on les enferma et on les oublia. À 8 heures du soir, le général Changarnier n'avait pas encore mangé. Le moment de l'arrestation fut rude pour les commissaires de police. Ils eurent là de la honte à boire à grandes gorgées. Pas plus que Charras, Cavaignac, Le Flo, Changarnier, Bedeau et la Mauricière ne les ménagèrent. À l'instant de partir, le général Cavaignac emporta quelque argent. Avant de le mettre dans sa poche, il se tourna vers le commissaire de police Colin, qui l'arrêtait, et lui dit « Cet argent sera-t-il en sûreté sur moi ?» Le commissaire se récria « Ah, général, que supposez-vous donc là ?»« Qui est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des filous ?» répliqua Cavaignac. Au même moment, presque à la même minute, Charras disait au commissaire de police Courteil « Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des escarpes ?» Quelques jours après, ces malheureux reçurent tous la croix de la Légion d'honneur. Cette croix donnée par le dernier Bonaparte à des gens de police après le 2 décembre, c'est la même que le premier Napoléon attachait aux aigles de la Grande Armée après Austerlitz. Je communiquais ces détails au comité. D'autres rapports affluaient. Quelques-uns concernaient la presse. Depuis le matin du 2, la presse était traitée avec toute la brutalité soldatesque. Serrière, le courageux imprimeur, vint nous dire ce qui avait eu lieu à la presse. Serrière imprimait la presse et l'avènement du peuple. Transformation de l'événement, judiciairement supprimé. Le 2, à 7 heures du matin, l'imprimerie avait été envahie par 28 soldats de garde républicaine, que commandait un lieutenant nommé Pape, décoré depuis pour cela. Cet homme avait remis à Serrière une défense de rien imprimer signé Nus. Un commissaire de police accompagnait le lieutenant Pape. Ce commissaire avait signifié à Serrière un décret du président de la République, supprimant l'avènement du peuple. Puis on avait mis des factionnaires auprès des presses. Les ouvriers avaient résisté. Un margeur avait dit aux soldats « Nous imprimerons malgré vous ». Alors étaient arrivés 40 nouveaux gardes municipaux, avec 2 maréchaux des logis et 4 brigadiers. Et tambour en tête, un détachement de ligne commandé par un capitaine. Girardin survint indigné et protesta avec tant d'énergie qu'un maréchal des logis lui dit « Je voudrais avoir un colonel comme vous ». Le courage de Girardin gagna les ouvriers, et à force d'adresse et d'audace, sous l'œil même des gendarmes, ils parvinrent à imprimer les proclamations de Girardin à la presse à bras et les nôtres à la brosse. Ils les emportaient tout humides par petits paquets sous leurs gilets. Heureusement, on était ivre. Les gendarmes faisaient boire les soldats. Les ouvriers profitaient de cette gaieté pour travailler. Les gardes municipaux riaient, juraient, faisaient des calembours, buvaient du vin de champagne et du café, et disaient « C'est nous qui remplaçons les représentants. Nous avons 25 francs par jour. » Toutes les presses de Paris était occupé ainsi militairement. Le coup d'État tenait tout. Ce crime maltraitait même les journaux qui le soutenaient. Au bureau du Moniteur parisien, les sergents de ville voulaient tirer sur quiconque en trouvait une porte. M. Delamarre, directeur de la Patrie, avait sur les bras 40 gardes municipaux et tremblait qu'ils ne brisassent ses presses. Il dit à l'un d'eux « Mais je suis avec vous ». Le gendarme répondit « Qu'est-ce que cela me fait ?» Dans la nuit du 3 au 4, vers 3 heures du matin, toutes les imprimeries furent évacuées. Le capitaine dit à Serrière « Nous avons ordre de nous concentrer dans nos quartiers. » Et Serrière, en nous racontant le fait, ajouta « Il se prépare quelque chose. » J'avais, depuis la veille, des conversations pour le combat avec Georges Biscarat, homme brave et probe, dont j'aurai occasion de reparler. Je lui avais donné rendez-vous au numéro 19 de la rue Richelieu. De là, dans cette matinée du 4, quelques allées et venues du numéro 15, où nous délibérions, au numéro 19, où je me couchais. À un certain moment, j'étais dans la rue. Je quittai cet honnête et courageux homme. Je vis venir à moi tout le contraire, M. Mérimée. « Tiens, me dit M. Mérimée, je vous cherchais. » Je lui répondis, « J'espère que vous ne me trouverez pas. » Il me tendit la main, je lui tournai le dos. Je ne l'ai plus revu, je crois qu'il est mort. Ce Mérimée, un jour, vers 1847, me parlait de Morny, et nous avions eu ce dialogue. Mérimée disait, « Monsieur de Morny a un grand avenir. » Et il m'avait demandé, « Le connaissez-vous ? » Et j'avais répondu, « Ah, il a un grand avenir. Oui, je connais Monsieur de Morny. Il a de l'esprit, il va beaucoup dans le monde, il fait des affaires industrielles, il a mis en train l'affaire de la vieille montagne, les mines de zinc, les charbonnages de Liège. J'ai l'honneur de le connaître. C'est un escroc. » Il y avait entre Mérimée et moi cette nuance que je méprisais Morny et qu'il l'estimait. Morny le lui rendait, et c'était juste. J'attendis que Mérimée eût dépassé le coin de la rue. Quand il eut disparu, je rentrai au numéro 15. On avait des nouvelles de Canrobert. Le 2 au soir, il était allé voir Madame Leflo, cette noble femme indignée. Le lendemain, 3, il devait y avoir un bal chez Saint-Arnaud, au ministère de la guerre. Le général Leflo et Madame Leflo y étaient invités et devaient s'y rencontrer avec le général Canrobert. Mais ce n'est point de cette danse que lui parla Madame Leflo. « Général, lui dit-elle, tous vos camarades sont arrêtés, et c'est à cela que vous allez donner la main ? Ce que je vais donner, dit Canrobert, c'est ma démission. » Et il ajouta, « Vous pouvez le dire à Leflo. » Il était pâle et se promenait de long en large, très agité. « Votre démission, général ? » ?»« Oui, madame. » »« Est-ce sûr ? » ?»« Oui, madame, si pourtant il n'y a pas d'émeute. » »« Général Canrobert, s'écria madame Leflo. « Voilà un si qui me dit ce que vous allez faire. » Et pourtant, Canrobert n'était certes point décidé encore. Le fond de Canrobert était l'incertitude. Pélissier, l'homme hargneux et bourru, disait, « Fiez-vous donc au nom des gens. Je m'appelle Amable. Randon, surnommé nous, s'appelle César, et Canrobert s'appelle Certain. » 3-8 Situation. Quoique la tactique de combat du comité fût, j'en ai déjà dit les motifs, de ne point condenser la résistance dans une heure ni dans un lieu, mais de la répandre sur le plus grand nombre de points et le plus grand nombre de jours possible. Chacun de nous avait l'instinct, comme de leur côté les malfaiteurs de l'Élysée, que la journée serait décisive. Le moment approchait où le coup d'État nous donnerait l'assaut de toutes parts, et où nous aurions à soutenir le choc d'une armée entière. Le peuple, ce grand peuple révolutionnaire des faubourgs de Paris, abandonnerait-il ses représentants ? S'abandonnerait-il lui-même ? Ou, réveillé et éclairé, se lèverait-il enfin ? Question de plus en plus poignante, et que nous nous répétions avec anxiété. Aucun indice sérieux du côté de la garde nationale. La proclamation éloquente, écrite chez Marie par Jules Favre et Alexandre Ray, et adressée en notre nom aux Légions, n'avait pu être imprimée. Le projet d'Hetzel avait avorté. Versigny et Labrousse n'avaient pu le rejoindre. Le lieu de rendez-vous choisi, l'angle du boulevard et de la rue Richelieu, ayant été constamment balayé par les charges de cavalerie. L'effort courageux du colonel Gressier sur la 6e Légion, la tentative plus timide du lieutenant-colonel Owen sur la 5e, avait échoué. Pourtant, l'indignation de Paris se dessinait. La soirée avait été significative. Un grès nous arriva dès le matin, portant sous son manteau une liasse d'exemplaires du décret de déchéance, réimprimé. Pour nous les apporter, il avait 10 fois couru le risque d'être arrêté et fusillé. Nous fîmes immédiatement distribuer et afficher ces exemplaires. Cet affichage s'exécuta résolument. Sur plusieurs points, nos affiches furent collées à côté des affiches du coup d'État, qui portaient peine de mort contre quiconque placarderait les décrets émanés des représentants. Ingres nous annonça que nos proclamations et nos décrets avaient été autographiés et circulaient de main en main par milliers d'exemplaires. Il importait de continuer nos publications. Un imprimeur, ancien éditeur de plusieurs journaux démocratiques, M. Boulet, m'avait fait offrir ses services la veille au soir. J'avais pris, en juin 1848, la défense de son imprimerie, dévastée par les gardes nationaux. Je lui écrivis. Je mis nos actes et nos décrets dans la lettre, et le représentant Montaigu se chargea de les lui porter. M. Boulet s'excusa. Ses presses avaient été envahies à minuit par les sergents de ville. Par nos soins, et grâce au patriotique concours de plusieurs jeunes élèves en chimie et en pharmacie, on avait fabriqué de la poudre dans plusieurs quartiers. Sur un seul point, rue Jacob, on en avait fabriqué 100 kilogrammes dans la nuit. Comme cette fabrication se faisait principalement sur la rive gauche et que le combat avait lieu sur la rive droite, il fallait faire passer les ponts à cette poudre. On s'y prenait comme on pouvait. Vers 9 heures, nous fûmes avertis que la police, informée, avait organisé une surveillance et qu'on fouillait les passants, particulièrement sur le pont Neuf. Un certain plan stratégique se dessinait. Les 10 ponts du centre étaient gardés militairement. On arrêtait dans les rues les gens sur la mine. Un sergent de ville, à l'angle du pont au change, disait assez haut pour que les passants l'entendissent. « Nous empoignons tous ceux qui n'ont point la barbe faite ou qui ont l'air de n'avoir pas dormi. » Quoi qu'il en fût, nous avions un peu de poudre. Le désarmement de la garde nationale, dans plusieurs quartiers, avait produit environ 800 fusils. Nos proclamations et nos décrets s'affichaient. Notre voix arrivait au peuple. Une certaine confiance naissait. « le flot monte !» disait Edgar Quinet, qui était venu me serrer la main. On nous annonçait que les écoles s'insurgeraient dans la journée et nous offriraient un asile au milieu d'elles. Jules Favre s'écriait avec joie « Demain nous daterons nos décrets du Panthéon !» Les symptômes de bon augure se multipliaient. Un vieux foyer d'insurrection, la rue Saint-André-des-Arts, s'agitait. L'association dite « la presse du travail » donnait signe de vie. Quelques vaillants ouvriers, groupés autour d'un des leurs, Nétré, rue du Jardinet, numéro 13, avaient presque organisé une petite imprimerie dans une mansarde, à quelques pas d'une caserne de la gendarmerie mobile. Ils avaient passé la nuit d'abord à rédiger, puis à imprimer un manifeste aux travailleurs, qui appelait le peuple aux armes. Ils étaient 5 hommes, habiles et résolus. Ils s'étaient procurés du papier. Ils avaient des caractères tout neufs. Les uns mouillaient pendant que les autres composaient. Vers 2 heures du matin, ils s'étaient mis à imprimer. Il ne fallait pas être entendu des voisins. Ils avaient réussi à étouffer les coups sourds du rouleau à encre, alternant avec le bruit rapide du rouleau de laine. En quelques heures, 1500 exemplaires étaient tirés. Et au point du jour, ils étaient placardés au coin des rues. Un de ces travailleurs intrépides, leur chef, A. Desmoulins, de la forte race des hommes lettrés et combattants, était très découragé la veille. À présent, il espérait. La veille, il écrivait « Où sont les représentants ? Les communications sont coupées, on ne traverse plus les quais ni les boulevards, il est devenu impossible de réunir l'assemblée populaire. » Le peuple manque de direction. De Flotte d'un côté, Victor Hugo d'un autre, Schœlcher ailleurs, poussent activement au combat et 20 fois exposent leur vie. Mais nul ne les sent appuyer par un corps organisé. Et puis, la tentative des royalistes du 10e arrondissement effraie. On craint de les voir réapparaître à la fin. Maintenant, cet homme, si intelligent et si brave, reprenait confiance. Et il écrivait « Décidément, Louis-Napoléon a peur. Les rapports de police sont alarmants pour lui. La résistance des représentants républicains porte ses fruits. Paris s'arme. Certains corps semblent prêts à tourner. La gendarmerie mobile elle-même n'est pas sûre. Et ce matin, un bataillon tout entier a refusé de marcher. Le désordre se met dans les services. Deux batteries ont longtemps tiré l'une sur l'autre sans se reconnaître. On dirait que le coup d'État va manquer. Les symptômes, on le voit, s'amélioraient. Maupas devenait-il insuffisant? Avait-on recours à un plus habile? Un fait semblait l'indiquer. La veille au soir, un homme de haute taille avait été vu, entre 5 et 7 heures, se promenant devant le café de la place Saint-Michel. Il avait été rejoint par 2 des commissaires de police qui avaient fait les arrestations du 2 et leur avaient parlé longtemps. Cet homme était Carlier. Allait-il suppléer Maupas? Le représentant Labrousse, attablé au café, avait vu ce conciliabule. Chacun des 2 commissaires était suivi de cette espèce d'agent qu'on appelle le chien du commissaire. En même temps, des avertissements étranges parvenaient au comité. Il nous était donné connaissance du billet que voici. 3 décembre. Mon cher Bocage, aujourd'hui à 6 heures, 25 000 francs ont été promis à celui qui arrêterait ou tuerait Hugo. Vous savez où il est. Que sous aucun prétexte il ne sorte. À vous. Alexandre Dumas. Au dos. Bocage, 18, rue Cassette. Note. L'original de ce billet est entre les mains de l'auteur de ce livre. Il nous a été remis par M. Avenel de la part de M. Bocage. Fin de note. Il fallait songer aux moindres détails. Il y avait dans les différents lieux de combat une diversité de mots d'ordre qui pouvaient entraîner des dangers. Nous avions donné pour mot d'ordre la veille le nom de Baudin. On avait par imitation pris pour mot d'ordre, dans plusieurs barricades, d'autres noms de représentants. Rue Rambuteau, le mot d'ordre était Eugène Sue et Michel de Bourges. Rue Beaubourg, Victor Hugo. À la chapelle Saint-Denis, Esquiros et De Flotte. Nous jugeâmes nécessaire de faire cesser cette confusion et de supprimer les noms propres, toujours faciles à deviner. Le mot d'ordre convenu fut « Que fait Joseph ?» À tout moment, des renseignements et des informations nous venaient, et de tous les côtés, que des barricades s'élevaient partout, et que la fusillade s'engageait dans les rues centrales. Michel de Bourges s'écria « Faites 4 barricades en carré, et nous irons délibérer au milieu !» Nous eûmes des nouvelles du Mont-Valérien. 2 prisonniers de plus, Rigal et Belle, venaient d'y être écroués, tous 2 de la gauche. Le docteur Rigal était représentant de Gaillac, et Belle de Lavore. Rigal était malade, on l'avait pris au lit. Dans la prison, il gisait sur un grabat et ne pouvait s'habiller. Son collègue, Belle, lui servait de valet de chambre. Vers 9 heures, un ancien capitaine de la 8e Légion de la Garde nationale de 1848, nommé Jourdan, vint s'offrir à nous. C'était un homme hardi, un de ceux qui avaient exécuté, le 24 février au matin, le téméraire coup de main sur l'hôtel de ville. Nous le chargeâmes de recommencer ce coup de main et de l'étendre jusqu'à la préfecture de police. Il savait comment s'y prendre. Il nous annonça qu'il avait peu d'hommes, mais qu'il ferait occuper silencieusement dans la journée certaines maisons stratégiques du quai de Gèvres, du quai Le Pelletier et de la rue de la Cité, et que, s'il arrivait que les gens du coup d'État, le combat du centre de Paris grandissant, fussent forcés de dégarnir de troupes l'hôtel de ville et la préfecture, l'attaque commencerait immédiatement sur ces 2 points. Le capitaine Jourdan, disons-le tout de suite, fit ce qu'il nous avait promis. Malheureusement, comme nous l'apprîmes le soir, il commença peut-être un peu trop tôt. Ainsi qu'il l'avait prévu, il arriva un moment où la place de l'hôtel de ville fut presque vide de troupes, le général Herbillon ayant été obligé de la quitter avec la cavalerie pour aller prendre à revers les barricades du centre. L'attaque des républicains éclata à l'instant même. Les coups de feu partirent des croisées du quai Le Pelletier. Mais la gauche de la colonne était encore au pont d'Arcole. Une ligne de tirailleurs avait été placée par un chef de bataillon nommé La Rochette, en avant de l'hôtel de ville. Le 44e revint sur ses pas et la tentative échoua. Bastide arriva avec Chauffour et les sacs. « Bonne nouvelle, nous dit-il, tout va bien. » Sa figure grave, probe et froide, rayonnait d'une sorte de sérénité civique. Il revenait des barricades et allait y retourner. Il avait reçu 2 balles dans son manteau. Je le pris à part et je lui dis « Vous y retournez ?»« Oui, emmenez-moi avec vous. »« Non, répondit-il, vous êtes nécessaire ici. Aujourd'hui, vous êtes général, moi, je suis soldat. » J'insistai vainement, il persista à refuser, répétant toujours « Le comité est notre centre, il ne doit pas se disperser. Votre devoir est de rester ici. » D'ailleurs, ajouta-t-il, « Soyez tranquille, vous courez ici encore plus de danger que nous. Si l'on vous prend, on vous fusillera. » « Eh bien, lui dis-je, le moment peut venir où notre devoir sera de nous mêler au combat. » « Sans doute. » Je repris. « Vous qui êtes sur les barricades, vous serez meilleur juge que nous de ce moment-là. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous ferez pour moi comme vous voudriez que je fisse pour vous, et que vous viendrez me chercher. « Je vous la donne, me dit-il, et il me serra les 2 mains dans les siennes. » Plus tard, pourtant, peu d'instants après le départ de Bastide, quelle que fût ma confiance dans la loyale parole de ce courageux et généreux homme, je ne pus y tenir, et je profitai d'un intervalle de 2 heures dont je pus disposer pour aller voir par mes yeux ce qui se passait et de quelle façon la résistance se comportait. Je pris une voiture place du Palais-Royal. J'expliquai au cocher qui j'étais et que j'allais visiter et encourager les barricades, que j'irais tantôt à pied, tantôt en voiture, et que je me confiais à lui. Je me nommai. Le premier venu est presque toujours un honnête homme. Ce brave cocher me répondit « Je sais où sont les barricades. Je vous conduirai où il faudra. Je vous attendrai où il faudra. Je vous mènerai et je vous ramènerai. Et si vous n'avez pas d'argent, ne me payez pas. Je suis fier de ce que je fais. » Et je partis.